Une grande histoire des savoirs scientifiques, 5 siècles sur la manière de faire, de pratiquer, d'énoncer les connaissances et le travail exceptionnel qu'a réalisé un collectif d'auteurs afin de replacer l'activité scientifique dans son contexte historique, politique, économique et culturel. La Tête au Carré va consacrer jusqu'en février 3 émissions à cette histoire des sciences et des savoirs qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Premier volet donc dans un instant pour nous emmener de la Renaissance aux Lumières et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque.
Mathieu Vidard.
Une histoire des sciences et des savoirs, c'est donc le dossier dans un instant avec mes invités, les historiens des sciences, Dominique Pestre et Stéphane Vandamme. Bonjour à tous
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Stéphane Vandamme. Dans cette grande histoire des sciences, il y a le point de départ, la Renaissance. Pourquoi est-ce que vous commencez à cette époque ?
Parce que c'est sans doute le moment où les pratiques et l'héritage médiéval commencent à être remis en question. Et donc c'est sur la base de cette interrogation autour de la rupture qu'introduit la Renaissance que nous avons voulu commencer.
Oui. Dominique Pestre, la figure du savant, on va beaucoup en parler avec vous. Elle a évolué bien sûr au fil des siècles. À quel moment on commence à parler des savants et des scientifiques ?
Ben, on parle des savants avant de parler des scientifiques. Les savants, fin 18e j'imagine, ça c'est assez fréquent. Avant, non. Et les scientifiques, dans le second 19e siècle, on commence à employer le vocabulaire. Mais savant, on va rester jusqu'au moins à la Seconde Guerre mondiale.
On verra quelle sera la figure justement du savant dès cette époque. Et on va se retrouver donc dans quelques minutes pour explorer donc le premier tome de cette histoire des sciences et des savoirs. Depuis la Renaissance jusqu'aux Lumières.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Et c'est un travail monumental que viennent de publier les éditions du Seuil avec 3 volumes sur l'histoire des sciences et des savoirs qui nous emmènent de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. C'est donc la première émission d'une série de 3 que nous consacrons à cette fresque historique avec mes invités. Premier tome, Dominique Pestre et Stéphane Vandamme. Dominique Pestre, vous êtes physicien, historien des sciences, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et c'est vous qui avez dirigé justement les 3 tomes de cette collection. Stéphane Vandamme, vous êtes historien, professeur d'histoire des sciences à l'Institut universitaire européen à Florence et vous avez supervisé donc le premier volume de cette collection. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Dominique Pestre, donc c'est un travail très ambitieux évidemment que vous avez réalisé, 3 tomes pour replacer les sciences et les techniques, les savoirs dans des contextes différents de chaque époque. Contribution de combien ? 70 chercheurs à peu près ?
Oui, à peu près 70, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 70 ouais. À peu près.
C'était quoi l'idée de départ alors pour vous ? Qu'est-ce que vous vouliez montrer exactement ?
C'était raconter une autre histoire, c'est-à-dire ouais. pas une histoire où on saurait d'avance que c'est la science et on montrerait nécessairement sa grandeur intrinsèque, en gros, ce qui est un vrai projet, c'est-à-dire raconter les exploits de créativité ou raconter l'évolution des idées, des concepts, c'est très important. Mais nous voulions faire une histoire qui n'a pas été écrite sous cette forme, qui était complètement différente, qui était d'essayer de saisir ces sciences dans leur pratique quotidienne, dans leur milieu, dans leur lieu, dans leur épaisseur, quoi, on va dire, dans leur épaisseur sociale. Et donc, d'entrer par d'autres chemins. Par exemple, on s'était dit quelles sont les grandes multinationales des savoirs à chaque époque. Alors, par exemple, on peut dire à ce moment-là, on va en parler, c'est peut-être les jésuites. Peut-être que les jésuites, c'est la grande multinationale des savoirs. Ou la Compagnie des Indes britannique ou néerlandaise. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est peut-être la Banque mondiale, c'est peut-être... Voyez. Donc, en se posant la question comme ça, on saisit un objet qui est moins défini que science, et que c'est pour ça qu'on met science et savoir. Et de cette façon, on a beaucoup d'histoires à raconter. En fait, ça permet de raconter énormément d'histoires extraordinaires.
Et qu'est-ce qui distingue la science des savoirs, alors, justement?
Eh ben, la position que nous avons adoptée, c'est que c'est pas nous qu'allons décider parce qu'il n'y a pas 2 personnes à la même époque qui le définissent de la même façon. Donc, on va rester, nous, relativement agnostiques sur ça. Si quelqu'un dit ça, c'est la science et ça, c'est un savoir et donc c'est moins bien, c'est sa manière à lui de dire, mais il y aura quelqu'un qui dira le contraire. Donc, a priori, justement, l'idée, on aurait presque pu écrire science et savoir avec des tirets. C'est cet ensemble-là que nous voulons saisir, sans a priori dire, nous savons ce qu'est l'un et nous savons ce qu'est l'autre.
On parlera de savoir et de savoir-faire aussi d'ailleurs.
Ah bah bien sûr,
cours de route,
et savoir pour nous, il n'y a pas long d'un doute, ça inclut des pratiques, des savoir-faire, c'est évident.
Stéphane Vandamme, à la Renaissance, qu'est-ce qui marque justement le passage à l'époque moderne ? Alors vous parliez de rupture tout à l'heure sur le sommaire.
Oui, alors c'est vrai que ce qui caractérise la manière d'inventer de nouvelles pratiques savantes ou scientifiques à partir du XVIe siècle, même du XVe siècle, c'est d'abord une remise en cause de l'héritage, on va dire, scolastique, hein, c'est-à-dire de la définition antique et médiévale des sciences, qui était avant tout centrée sur ce qu'on appelait la philosophie naturelle. Hein, donc, l'idée étant d'inventorier, si on veut, les phénomènes naturels, hein, dans une nature qui était comprise comme finie, comme connue, d'une certaine manière. Avec la Renaissance, ce qui va se jouer, c'est la légitimation, d'une certaine manière, d'une logique de la découverte. C'est-à-dire qu'on considère que la conception de la nature n'est plus établie, n'est plus close, mais qu'elle mérite justement un nouvel inventaire. Et pour ça, il y a une raison toute simple, hein, c'est d'abord l'élargissement du monde.
Oui, bien sûr.
Il y a les grandes découvertes.
Oui. Les grands voyages,
et
évidemment.
Voilà, et donc Aristote, hein, comment confronter les grandes autorités léguées par l'histoire, par les grandes institutions universitaires, avec de nouveaux phénomènes naturels que l'on découvre. Ouais. À l'occasion des grandes découvertes.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi dans cette période-là, hein, vraiment Renaissance, siècle des Lumières, c'est qu'on va inventorier, on va classifier énormément, donc c'est aussi tout un nouveau regard qui est porté sur la science, hein, Dominique Pestre.
Oui, je pense que moi ce qui me frappe dans ce premier volume, c'est qu'est-ce que l'ouverture du monde a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait au savoir ? Et ça, c'est une chose essentielle. C'est-à-dire, quand on raconte, c'est pour ça que nous disons, nous revenons souvent sur le thème, l'histoire classique telle qu'elle m'a été enseignée, bon, c'était encore de dire qu'il y avait une, vous ouvrez les guillemets, révolution scientifique. C'est-à-dire, il s'était passé quelque chose.
Oui.
Et peut-être Galilée était celui qui avait fait la révolution.
C'était la grande figure, en tout cas.
Elle était conceptuelle, et à partir de là commençaient les vraies sciences. Vous comprenez? Là, il y avait une véritable idée qu'on savait ce que c'était. Quand on regarde ce qui se passe là, on se rend compte que, non, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, même si on est fidèle, et ça, mon ami Stéphane saura ça mieux que moi, mais si on regarde le vocabulaire, les mots sont toujours extrêmement importants, comment parlent les gens. Et ceux qui emploient le mot de « scientia », le mot latin sur lequel est construit « science », il signifie pas Galilée, il signifie pas la physique, il signifie pas la dynamique, il signifie pas la mécanique newtonienne. Il signifie complètement autre chose. Il signifie la théologie, par exemple. Bon, voilà, c'est pour ça que nous ne pouvons pas d'avance définir ce qui est la science et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'à ce moment-là, ce dont il faut parler, c'est de la théologie, c'est de l'histoire naturelle, c'est des grandes découvertes, c'est... voilà.
Stéphane Vandamme.
Oui, c'est justement ça. L'idée de départ, c'était de ne pas partir d'un postulat, on va dire, continuiste. Hein, c'est-à-dire considérer que tout s'inventait... dès la Renaissance, et en particulier les sciences d'aujourd'hui, mais plutôt d'entreprendre une forme d'archéologie, hein, une forme de contextualisation un peu radicale pour faire ressortir l'ancienneté, si j'ose dire, de ces sciences de l'époque moderne. Alors plutôt sciences de l'époque moderne plutôt que sciences modernes, d'une certaine manière. Et ce décalage permettait vraiment de montrer qu'il y avait une coprésence. D'un côté, les savoirs de la tradition, on va dire, comme la théologie, par exemple, et puis de l'autre côté, ou de l'histoire naturelle, et puis de l'autre côté, des savoirs que l'on qualifierait aujourd'hui de modernes, plutôt du côté d'une culture de l'invention, de l'innovation, par exemple, donc avec l'astronomie, les cultures expérimentales, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire ne pas préjuger de ce qui est scientifique, mais de voir en situation comment les acteurs redéfinissent c'est ce passage de savoir aux sciences. Ouais.
On a aussi le sentiment que les choses se structurent mieux, Dominique Pestre, que les méthodes sont établies et qu'on va expérimenter. C'est aussi ce qui fait peut-être la nature de la science à ce moment-là.
Alors, même chose, ça caractérise très bien un morceau de ces savoirs ou de ces sciences, comme vous voulez. C'est ce qui se passe au laboratoire, c'est ce qui se passe dans les académies. On se met, des gentlemen se mettent autour d'une machine, ils font une expérience que nous appelons maintenant... une expérience, faire une expérience de laboratoire. Alors là, vous avez raison, mais beaucoup de choses se déroulent dans des espaces complètement différents. Ouais. Et là, par exemple, si on peut dire...
Il y a beaucoup de discussions entre l'espace public et l'espace privé du laboratoire.
Absolument.
Ce sont des sujets de controverse aussi.
Oui, bien sûr, il y a évidemment... Vous imaginez bien que qui, au milieu du XVIIe siècle, produit des savoirs secrets dans des espaces fermés et dont ils prétendent que c'est la vérité. Mmh. Ça s'appelle des sectes religieuses.
Oui, c'est vrai.
Non, à partir du moment où les académies commencent à faire ça, elles sont accusées. Mmh. Hobbes accuse la Royal Society anglaise, le grand philosophe Hobbes, l'accuse d'être une secte, mmh, évidemment.
Quelques grandes figures justement de la science de cette époque.
Aujourd'hui, le français Descartes proclame les règles de la méthode. Et l'allemand Leibniz met au point des formes de calcul qui sont un pas capital. Mais l'anglais Bacon a codifié déjà les règles complexes de l'expérimentation. Et toute curiosité est venue des précurseurs de la Renaissance. Les premiers instruments scientifiques apparaissent. Œuvre de l'esprit humain, ils en multiplient les possibilités.
Voilà une illustration de ce qui se passe à l'époque, Stéphane Vanda. Mais c'est un bon résumé aussi, avec quelques grandes figures.
On voit bien le rôle de la science comme moteur dans un grand récit d'émancipation.
Ouais.
Et le rôle de ces acteurs comme presque le rôle les figures héroïques de cette grande histoire des sciences. On a besoin des grands hommes pour identifier les progrès et la marche des sciences vers la modernité d'une certaine manière. Évidemment, tous ces grands récits ont été à la fois remis en question, mais se sont un peu aussi désagrégés dans les dernières décennies, d'où effectivement la volonté de les questionner et aussi de tenter une autre histoire sur d'autres modèles. D'où le terme d'ancien régime des sciences plutôt que de révolution scientifique.
Dominique Pestre.
Oui, j'ajouterais, en fait, ce qui est intéressant, c'est cette histoire héroïque autour des grands noms. Elle n'existe pas depuis le début. C'est une construction a posteriori.
Alors c'est ça.
Le 18e siècle commence à la...
La figure mythique du savant, elle n'existe pas à l'époque. Non,
alors on va dire, c'est un petit peu plus compliqué. Prenons un exemple pour être simple, pour être concret et raconter une histoire. Si vous prenez Galilée, d'accord ? Tout au long du 19e siècle se construit la figure de Galilée dont nous considérons qu'elle est déjà celle du 17e, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, par exemple, Galilée au 19e siècle, dans le contexte français, post-révolutionnaire et où la bataille a lieu contre l'Église, etc., Galilée est fabriqué comme un anticlérical.
Oui.
C'est le 19e qu'invente à Galilée anticlérical et qui transforme le procès en un procès de la raison contre la religion.
Et alors à l'époque, quel est son statut de scientifique ?
Il est tout à fait important, si j'ose dire, mais encore une fois... il est inscrit dans les paramètres, qu'on va dire, de la reconnaissance d'ancien régime, c'est-à-dire l'homme de cour. Et ce qui est intéressant, c'est que ses adversaires, les jésuites, et ça apparaît très nettement dans le chapitre sur la culture expérimentale, sont probablement les principaux protagonistes, si j'ose dire, de l'avènement de la culture expérimentale mathématisée. Donc c'est très intéressant parce que on voit qu'en contextualisant, on complexifie un petit peu le récit, les oppositions classiques et traditionnelles entre science et religion.
Christophe sur Twitter demande comment justement la religion a perçu la perte de son leadership au profit de la science à cette époque.
Alors la religion, c'est pas... Il faut voir que ce que nous on appelle religion, on peut probablement qu'à l'époque moderne, la religion est aussi associée à une autorité intellectuelle, c'est-à-dire via l'université, l'Église, et en défendant la théologie comme science suprême, si j'ose dire, hiérarchise en fait tous les savoirs. Donc elle a, c'est comme si aujourd'hui, si vous voulez, le pape réordonnait le monde scientifique et le monde des savoirs. Aujourd'hui, on vit plutôt sur le mode de la séparation entre science et religion. À l'époque moderne, c'est quasiment impossible. Donc effectivement, on négocie avec les autorités religieuses.
On a un peu de compte à rendre aussi.
Oui, exactement.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion et les messages, bien sûr, franceinter.fr, le mot-clé, l'attaque, pour cette histoire des sciences et des savoirs.
Des années déjà que je ne me vois pas, je ne sens plus rien. Mon corps n'abrite rien de moi. petite, rien ne m'accrédite plus trop. Sensation d'être grande au cœur de la démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps d'un aplomb plus haut. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse. Tellement sûr j'aurais aimé que ça dure, que je reste. Où je sens l'insulte de trop. Marque mon visage, remarque, je tourne la page, tourne mon héritage en lambeaux.
Rien de moi et la voix de Claire de Namur.
Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook, La Pérouse sont autant de noms restés célèbres pour les voyages qu'ils ont accomplis à travers les océans. Ils sont à jamais considérés comme les pionniers de la cartographie moderne et découvreurs de la Terre dans son ensemble. Découvrir une nouvelle route, un nouveau passage, un nouveau continent, c'est repousser les limites des cartes, bien sûr. Mais pour une nation, c'est aussi être la première à en exploiter les richesses. Plus tard, ce sera pour la science et son prestige éclatant.
Pour évoquer l'histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance aux Lumières, cet après-midi, Dominique Pestre et Stéphane Van Damme, les invités de La Tête au Carré. Dominique Pestre, on est à un moment clé, là, justement. On découvre le monde, les territoires s'agrandissent. On peut parler déjà d'une mondialisation et d'une diffusion des savoirs.
Alors, d'une mondialisation, oui. On pourrait dire que c'est la première, parce qu'il y en a des séries comme ça. Nous en avons, nous, au moins, parlé de deux ou trois, ou le trois au minimum. Oui, il y a une... Mais alors, est-ce que c'est une diffusion des savoirs? C'est là où on voulait aussi insister sur le point. C'est un peu plus compliqué que ça. On ne veut pas partir de l'idée qu'il y aurait eu... Tout serait passé chez nous, hein, entre l'Italie, l'Angleterre et la France, peut-être l'Allemagne. Et puis on aurait tout inventé, et puis ensuite on aurait diffusé. Et dès qu'on regarde, on voit que c'est... Si vous prenez... Prenons quelques exemples. L'histoire naturelle. Vous prenez la géographie, vous prenez la cartographie, vous prenez l'anthropologie, vous prenez les savoirs de la pharmacopée, vous prenez les savoirs sur les humains, les savoirs des langues, vous pouvez multiplier à l'infini, d'accord ? Ce sont aussi des savoirs et des sciences très respectables, d'accord ? Si vous prenez ça, elles n'ont pas été diffusées, elles se sont réinventées dans tous les endroits où nous rencontrions d'autres peuples qui se rencontraient d'ailleurs déjà entre eux. Par exemple, je ne sais pas, dans le sous-continent indien, il y avait déjà des rencontres de cultures extrêmement différentes. Se greffent dessus, à un moment les Portugais, à un moment les Anglais, dans le sous-continent, à un moment les Hollandais. Et c'est des couches qui se rajoutent de cultures qui fait que dans ces rencontres naît quelque chose, des questions nouvelles.
Ouais. Voilà, Stéphane, dans ces grands navires, il y avait des scientifiques aussi.
Oui,
qui venaient pour là aussi collecter des choses de la nature.
Alors c'est vrai que peut-être qu'il faut nuancer le terme scientifique, hein, c'est-à-dire que, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, la science dans sa définition professionnelle, on va dire, est très minoritaire. Hein, c'est quelques individus, quelques corps. Majoritairement, la pratique savante, la pratique scientifique, l'enquête sur la nature est une pratique qui est culturelle, donc une pratique qui est ouverte aux amateurs. Donc sur les bateaux, vous allez avoir des pilotes qui vont s'intéresser à l'astronomie. Vous allez avoir des commerçants, si j'ose dire, des gens qui sont embarqués, des soldats, des administrateurs, qui eux pratiquent la science comme un hobby finalement, et qui vont enrichir leur compte rendu, leur correspondance avec les métropoles, non seulement d'informations, mais aussi parfois d'objets, hein, d'instruments. Et donc, ils s'embarquent avec leurs instruments sur les navires, un peu comme un passe-temps, parce que les voyages sont très longs. Et eh bien, ils vont devenir les correspondants des grandes académies européennes.
Et là aussi, il y a des échanges d'informations et on voit vraiment le savoir qui se croise partout.
C'est là où peut-être qu'on est passé d'une définition, on va dire, diffusionniste, c'est-à-dire la diffusion du grand récit, la révolution scientifique au reste du monde, à un récit qui est fondé aussi sur la confrontation, sur l'échange. Hein, la globalisation ou la mondialisation impose son agenda de recherche. C'est vrai que quand vous arrivez dans le monde malais, que vous inventoriez, vous avez une nature différente. Et ça, vous la connaissez parce que vous entrez en contact avec aussi des savants locaux, si j'ose dire, hein, des élites savantes, hein, ou même des intermédiaires ordinaires, des artisans, des gens qui vont vous aider aussi à transmettre ce
savoir. Et ils sont aussi des savants.
Hein. Voilà,
ces
exactement.
Artisans rentrent dans cette catégorie. Dominique Pestre.
Oui, si on prend pensez à la pharmacopée. Vous imaginez bien que notre pharmacopée, elle est tout à fait limitée à notre région en termes climatiques, en termes de ce qu'est notre région. Vous entrez dans d'autres pays, vous avez d'autres plantes, et c'est pas nous qui allons inventorier ces plantes pour expliquer aux indigènes ce qu'ils vont faire. Évidemment, c'est ridicule. Ils l'ont déjà fait comme nous l'avons fait nous-mêmes. Donc, nous rencontrons d'autres personnes qui savent comme nous, et de l'échange, eux se modifient, nous nous modifions, nous faisons d'autres catégories, d'autres... Voilà, je pense que ça, c'est le point essentiel. Et l'autre sur lequel on a beaucoup insisté dans ce volume, c'est que, en fin de compte, le commerce est la force qui entraîne derrière elle toute l'histoire naturelle, la cartographie, etc. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le navire, il y va pas simplement pour faire de la science, il y va pour ramener des produits. Ces produits sont de nature extrêmement différente. Il peut aller chercher des clous de girofle, des choses classiques, mais il peut aussi ramener des plantes rares. Il va ramener des tas de plantes pour la pharmacopée occidentale. Il va ramener des manuscrits.
Donc il y a le négoce qui s'entremêle intimement avec la science.
Bien sûr, le négoce fait qu'on ramène ici dans les grands lieux, comme Amsterdam, comme à Paris, à Londres, etc., dans les grands ports, on ramène toute une série de choses qu'on se met à étudier et on les étudie parce qu'il va falloir les revendre. On fait commerce de toutes ces choses.
Alors, il y a les jésuites qui jouent un rôle absolument prépondérant dans cette multinationale du savoir, comme vous la nommez, et puis également les diasporas, qui vont faire beaucoup aussi pour la diffusion.
Ouais. Il y a un excellent article sur les diasporas. Stéphane va préciser ça. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture, j'ai beaucoup aimé cet article. J'avais jamais réfléchi à cette histoire de diaspora. C'est de voir comment, dans un contexte de guerre religieuse et d'exclusion systématique d'élites de part et d'autre, vous avez des groupes, les huguenots français, mais vous avez les jacobites anglais ou d'autres groupes. Évidemment, il y a toujours les éternels arméniens, les communautés juives, etc. Vous avez toujours des gens qui sont en train de qui sont déplacés, etc. Et ça, c'est des facteurs de diffusion et d'acclimatation dans des espaces différents extrêmement importants.
Parce que ce sont des gens qui écrivent et qui traduisent. Donc, exactement. Du coup, évidemment, là aussi, ça ouvre des portes qui jusqu'alors étaient fermées. Alors,
c'est vrai que leur capacité linguistique, leur en font des très bons intermédiaires. Ils sont capables de négocier, hein, des passages entre plusieurs mondes linguistiques, plusieurs mondes culturels. Et ça, on voit très bien, on les voit donc très bien à l'œuvre dans, pour certains types de savoirs, les transferts technologiques, par exemple. Là, les compétences sont souvent plus incorporées, c'est-à-dire que ce sont des gens qui transmettent eux-mêmes des savoir-faire. Mais effectivement, ils vont permettre ces passages, hein, d'un monde à un autre. Donc la commensurabilité, si j'ose dire, le fait, comme ça, de pouvoir mesurer, hein, et transmettre et transférer des savoirs d'un espace à un autre.
Ça, ils le font de façon tout à fait consciente ou pas ?
Oui, tout à fait. Oui, ouais. Oui. On peut dire qu'ils deviennent même des professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ils sont dans les interstices, hein, des mondes politiques, des empires. Des souverainetés, des droits maritimes. Donc ils arrivent d'une certaine manière à servir de possibles relais, hein, quand ces ensembles sont plus ou moins bloqués, hein, par des monopoles, des logiques de monopoles, des logiques de privilèges, par exemple.
On se retrouve dans un instant, dernière partie de cette première exploration, grande histoire des sciences et des savoirs, de la Renaissance aux Lumières, dans la tête au carré.
All the trees that we do not climb. Bridges, we cross in our minds. Who are we fooling when we cry? When she says everything is fine over her head, clouds that look like mines. Oh, why can't she wish for brighter skies?
Elle nous transporte avec sa voix, Jeanne Haddad, avec Look at Them à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Dominique Pestre et Stéphane Vandamme, donc mes invités pour cette histoire des sciences et des savoirs. On part de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Et les femmes là-dedans, Dominique Pestre, on n'en a pas beaucoup parlé. Ou Stéphane Vandamme, qui veut en discuter?
Oui,
Stéphane, peut-être
Oui, alors c'est vrai que...
On n'a pas cité un nom de femme pour l'instant.
Oui, tout à fait. Alors c'était une des idées du volume aussi, c'était un peu de repeupler ce monde de la science. On a parlé des artisans, mais évidemment les femmes aussi ont leur mot à dire.
Et elles ont joué un vrai rôle.
Elles ont joué un vrai rôle, tout à fait actif. Alors Là encore, le fait qu'on soit sorti d'une définition professionnalisante de la science et qu'on soit passé, qu'on ait mis l'accent dans l'observation sur la pratique culturelle, fait émerger un grand nombre d'acteurs, hein, comme les femmes, hein, qui sont effectivement qui sont hors des grandes institutions savantes, hein, l'académie, l'université, mais que, qui sont fortement présentes dans d'autres lieux où la science circule.
Il y a des figures.
Alors, évidemment, et Émilie du Châtelet, qui traduit Newton, mais il est à noter qu'en Italie comme en France, les deux traducteurs de Newton, hein, qui introduisent Newton en langue vernaculaire, sont des femmes. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, du côté aussi d'une compétence sociale qu'ont certaines de ces femmes, qui sont des salonnières, par exemple, et qui ont cette capacité aussi à jouer sur un mode mondain, si j'ose dire, l'échange savant. On voit très bien donc, au salon, hein, le salon, ce n'est pas un laboratoire.
C'est un lieu de diffusion.
Mais c'est aussi un lieu de diffusion, c'est un lieu de circulation, c'est un lieu de discussion.
Je pense aussi qu'elles sont extrêmement présentes dans les maisons, puisque dans les maisons, c'est là où on fait les sciences. Si vous êtes alchimiste, vous faites toutes sortes de métiers, vous êtes chimiste tout court comme Lavoisier. Madame Lavoisier, elle est là. Ouais. Elle est là. Elle fait le travail. Elle est plus qu'une assistante.
Ce sont les femmes savantes, effectivement. Hein, oui. Les vraies femmes savantes.
Donc, je pense que ça, on en a plein d'exemples maintenant. Toutes les grandes maisons de campagne anglaises dans lesquelles sont des gentlemen savants, la femme gère la maison, mais ça veut dire gérer toute l'économie de ses savoirs, de l'atelier, des salles d'expérimentation, etc. Elle joue un rôle réel important. Évidemment occulté, mais important.
Une figure intéressante, en tout cas amusante, François Ier de Médicis, qui s'ennuie beaucoup et qui donc s'occupe avec son petit coffret d'alchimiste, mais ça tourne mal.
François Ier, c'était un personnage taciturne, au caractère ombrageux. Il avait peu de goût pour la politique et il se réfugiait souvent tout seul, ici. En fait, il avait une passion, c'était l'alchimie. Et il s'était fait aménager une pièce à laquelle on accède par un passage secret. Voilà cette pièce dans laquelle il faisait ses expériences d'alchimie. La légende raconte que cette passion pour l'alchimie conduisit François Ier de Médicis à la mort. Ayant attrapé froid au cours d'une partie de chasse, il se serait soigné grâce à une mixture distillée dans son alambic. On pense qu'elle lui fut fatale.
N'est pas scientifique qui veut un pestre. Ça finit mal parfois, ces histoires. Stéphane Van Damme, c'est vrai qu'on voit aussi hein, durant cette période, c'est l'utilisation de nouveaux instruments. Et ça va aussi complètement modifier le cours de la science. Parce que le microscope, lorsqu'il arrive, évidemment, ça ouvre là aussi un continent nouveau. Hein.
C'est vrai que dans la culture expérimentale, on va valoriser la matérialisation des dispositifs pour faire voir un certain nombre de phénomènes naturels de manière artificielle. Hein, je ne sais pas, les sciences du mouvement vont essayer. Mais aussi, on va mettre l'accent sur l'observation, culture de l'observation, et donc sur sur ce qui est caché.
Hein.
Évidemment, souvent sur ce qui est caché, c'est-à-dire que à la base de l'expérimentalisme, il y a cette idée qu'il y a une partie de la nature qui nous est cachée, qu'il faut dévoiler. Le microscope, évidemment, va se charger hein, de matérialiser cette quête hein, pour l'invisible, alors de la mouche. Enfin, vous avez plein
de spermatozoïdes.
Oui,
les animalcules, voilà. Par exemple. Hein.
On a plein de alors ce sont des pratiques expérimentales. Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui les qualifier de scientifiques, mais elles sont menées un peu partout en Europe et dans le monde occidental, si on pense aux colonies.
Ouais. La dissection aussi fait partie
voilà.
Des pratiques.
C'est ça. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a cette culture expérimentale finalement. Elle n'est pas simplement réservée au laboratoire. Elle se retrouve dans un certain nombre de savoirs. Donc, elle est transversale, d'une certaine manière. Le théâtre d'anatomie, bien sûr, l'histoire naturelle. Voilà, il y a un certain nombre de pratiques, hein, comme l'observation, qui sont transversales et qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en valeur.
Et puis Dominique Pestre, autre pan intéressant, le lien entre la guerre et la science, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'au fond les forces militaires contribuent beaucoup au développement en tout cas de nouvelles techniques scientifiques et au savoir scientifique, et le rôle des mathématiques aussi à ce moment-là.
Oui, parce que les mathématiques, de quoi elles s'occupent à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut pas avoir l'image des mathématiques, ce serait comme maintenant, c'est des gens enfermés dans leur bureau et qui pensent tout seuls dans leur tête. C'est pas ça du tout, c'est complètement le contraire. Les mathématiques, c'est pas le sommet des savoirs, c'est le dernier rang des savoirs, c'est le septième rang. C'est-à-dire le dernier. Et c'est les gens qui s'occupent des choses pratiques. Les mathématiciens, ça s'occupe de l'artillerie, ça s'occupe de fortifications, ça s'occupe de l'optique, ça s'occupe, voilà. Ils font toutes ces choses concrètes on pourrait dire, de la maîtrise de l'espace. Ah, c'est ce qui permet de se déplacer dans l'espace.
Donc c'est hyper pratique, quoi.
Oui, c'est hyper pratique. Lié au monde des ingénieurs.
Hein. Oui, c'est en fait le monde des ingénieurs. Oui, c'est le monde des ingénieurs. Et donc, pour cette raison, comme ce sont ceux qui savent contrôler l'espace, anticiper l'espace, vous imaginez bien que pour la guerre, c'est absolument central. C'est ceux qui vous sont utiles pour attaquer une place forte, pour la défendre, pour cartographier un territoire. Et donc ça, c'est les mathématiciens qui font ce genre de travail. Si vous avez une science qui est pratiquement opérationnelle, on va dire, si c'est utile, que vous pouvez faire quelque chose avec, la physique le fera, mais beaucoup plus tard. Elle le fera seulement au 19e siècle. Elle ne sait pas le faire à l'époque. Ça sert à rien, la physique dans ce sens, hein, si je peux me permettre cette expression. Elle sert à rien au 18e, au 16e, au 17e. Par contre, ces mathématiciens pratiques qui construisent les instruments, c'est eux qui fabriquent les instruments dont parle Stéphane. C'est eux qui font... Alors donc, ils ont une capacité d'offrir à tout pouvoir un moyen de contrôle sur le monde. Évidemment, quand vous faites la guerre, c'est tout naturel.
Donc c'est l'art de la guerre qui est modifié aussi?
Par l'apport
des mathématiques.
Disons, l'art de la guerre est d'abord modifié par un certain nombre de changements techniques, la poudre, etc. Mais en même temps, pour s'adapter à ça, ces mathématiciens vont être ceux qui vont aider les différents types d'armées, de corps d'armée, à s'adapter à cette nouvelle situation. Oui.
Stéphane Vandamme.
Oui, alors on pourrait dire aussi que ça nourrit d'une certaine manière aussi le bagage des militaires. C'est-à-dire que l'enseignement des sciences fait partie du bagage de l'officier hein, sur le terrain. Il sait prendre des mesures, il sait calculer, il a intégré une partie de ses savoirs, de la balistique, etc. Donc il y a un va-et-vient, si vous voulez, entre c'est là où il n'y a pas d'étanchéité, si j'ose dire, entre ces mondes.
La première grande école de sciences au milieu du 18e, c'est l'école du génie de Mézières. Voilà, elle est à Mézières, c'est l'école du génie. C'est là où est Monge, où sont tous les grands mathématiciens et physiciens français de l'époque. C'est la grande école de sciences. C'est une école militaire. D'ailleurs, l'école polytechnique, si vous vous en souvenez, elle est créée en 1794 comme école militaire, puisqu'elle l'est toujours, d'ailleurs.
Histoire des sciences et des savoirs. Donc, Dominique Pestre pour ces trois volumes. Et puis, Stéphane Vandamme, donc, vous qui avez dirigé ce premier tome de la Renaissance aux Lumières. On va donc se retrouver en janvier, Dominique Pestre.
Avec plaisir.
Pour le deuxième volume, Modernité et Globalisation, avant d'aborder le siècle des technosciences qui nous concerne là, directement. Vous avez respecté la parité aussi dans les contributeurs de cette histoire.
Vous avez remarqué malheureusement que non, le respect n'a pas fonctionné pour les directeurs de volume.
Oui.
Mais en dehors de
ça, pour les contributeurs, oui.
Ah oui, pour les contributeurs.